un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
2 ans après le naufrage du bateau de migrants dans la Manche, le 24 novembre 2021, qui a causé la mort de 27 personnes, le journal Le Monde a pris connaissance des communications qui ont eu lieu ce jour-là entre le CROSS, c'est-à-dire le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Maritime, et l'embarcation naufragée. Il faut lire l'article de Julia Pasquale en entier pour être saisi d'effroi par l'attitude des sauveteurs qui ne semblent pas véritablement envisager d'envoyer des secours, mais attendent plutôt que le bateau arrive dans les zones anglaises. Pas plus qu'ils ne semblent mesurer le drame qui est en train de se jouer sous leurs yeux. Les échanges ont lieu entre 1h48 et 5h du matin environ. Les migrants appellent de nombreuses fois. À bord, les passagers sont paniqués, ils hurlent et pleurent. S'il vous plaît, on a besoin d'aide, s'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît. Si je n'ai pas votre position, je ne peux pas vous aider, répète une opératrice. Et un peu plus tard, en aparté, elle dira à un ou une collègue, je vais lui sortir la phrase magique, pas de position, pas de bateau de secours. Un autre commentaire, en aparté, donne la mesure de la honte. Tandis que l'opératrice tente de transférer l'appel d'un naufragé, la communication s'interrompt et on l'entend faire le commentaire suivant, rapporté par Le Monde. « Ah bah t'entends pas, tu ne seras pas sauvé. J'ai les pieds dans l'eau, je t'ai pas demandé de partir. » On imagine que ces secouristes ont besoin de relâcher la pression avec de mauvaises blagues. Mais couché sur le papier et en sachant ce qui s'en est suivi, le sang se glace. Tout de suite dans les pieds sur terre, nous sommes aussi sur les côtes de Calais avec 2 personnes qui, à leur manière, ont fait tout le contraire. Reportage Claudia Prolonge.
Je m'appelle Olivier, j'ai 47 ans, je suis calaisien de souche et maintenant j'habite à l'est de Calais, petit village qui s'appelle Léhem de Marc, qui est au bord de la plage, et en fait c'est un rêve de gamin d'habiter là-bas, et puis ben, le rêve s'est concrétisé, donc je suis vraiment du coin, hein. Alors là, à l'instant on est au bassin de plaisance de Calais, donc un beau petit port avec 300 ou 400 petits bateaux, et là actuellement on est dans mon bateau. Alors nous on est une très grosse association. En fait, on est des amoureux de la mer, des passionnés, qui aiment le contact humain. Et en fait, la base de notre activité, c'est des sorties pêche en mer. Donc, on emmène des groupes de pêcheurs au large, pêcher toutes sortes d'espèces. Et après, on a d'autres encore activités. Donc, on accompagne des nageurs qui s'entraînent pour traverser la Manche à la nage, ou des journalistes qui veulent faire un film ou des vidéos de la Côte d'Opale. À Calais, il y a toujours eu des migrants, et depuis peut-être une vingtaine d'années, et il y en aura toujours. Et à aujourd'hui, ils achètent un bateau gonflable sur Internet, ils se font livrer et ils essayent de partir en Angleterre. C'est tout ce qu'ils demandent. Et en fait, régulièrement, on fait des reportages avec des chaînes de télé qui recherchent à faire communiquer, surtout une chaîne anglaise avec qui je travaille beaucoup. Viennent régulièrement pour dire attention, il faut faire améliorer les choses et tout, pour faire prendre conscience aussi du danger de la Manche. Parce que nous, c'est un couloir où il y a énormément de courant, on a jusqu'à 8 km/h, 9 km/h de courant. Donc ça paraît pas, mais on a des changements de courant toutes les 6 heures. Donc au mois de novembre, un matin de novembre, il y a donc la chaîne de télé anglaise qui me dit, bon écoutez, il y a une accalmie d'annoncer, ils avaient eu des infos comme quoi il allait avoir beaucoup de traversées. Et moi, pareil, j'avais entendu parler. Parce que, en fait, le comportement change quand vous avez des départs de bateaux de Calais ou les environs. En fait, on voit les migrants la veille au soir avec des sacs à dos. On voit des enfants, on voit des femmes que d'habitude, on ne les voit pas. Ils logent en Belgique et, en fait, ils sont ramenés par des gens des pays de l'Est avec des camions, en fait, qui les déposent à certains endroits. Donc, on voit que ça bouge. Et il y a 3 ans, il n'y avait pas de migrants qui traversaient par la mer ou où c'était vraiment occasionnel. Mais là, à l'heure actuelle, c'est, on fait une sortie en mer, on peut croiser 3 ou 4 bateaux avec entre 20 et jusqu'à 40 migrants sur un bateau. Et en pleine journée. Tranquillement, ils traversent, ils nous font signe, ils nous disent bonjour, et puis ils passent à côté de nous. Alors nous, on contrôle qu'ils ne soient pas en danger. Donc c'est des accords qu'on a avec la préfecture maritime en fait. Alors c'est pas une loi, je vais dire une loi maritime, c'est pas ça. En fait, chaque plaisancier doit porter secours à un autre plaisancier, c'est que ça soit professionnel ou autre. Quand on voit quelque chose comme ça, en fait, nous, généralement, on fait un grand tour autour d'eux. On compte à peu près le nombre de personnes. Et en fait, on regarde si le bateau, il n'est pas en risque de chavirage, où il n'y a pas danger, ou s'ils sont équipés de gilets. Parce que ça nous est déjà arrivé plus d'une fois où il n'y avait aucun gilet de sauvetage. Donc, ils traversent comme ça, sans moyen de sécurité, quoi. Ils vont tout doucement, ils naviguent à 5-6 km heure en règle générale, parce qu'ils sont vraiment en très grande surcharge au niveau du bateau. Donc nous, on donne la position GPS, et là, les autorités, s'il y a suffisamment de bateaux sur l'eau, en fait, envoient un très gros navire. Donc s'ils ne sont pas en danger, ils les accompagnent jusque la frontière anglaise, et les Anglais les laissent avancer, et pour éviter les risques, ils les laissent aller jusque à la côte anglaise, quoi. Par contre, ça m'est déjà arrivé de tomber sur un bateau qui est en panne, mais je peux pas intervenir. C'est pas le fait qu'il soit sans papier, c'est pas le problème. C'est que en fait, ils sont un trop grand nombre de personnes à bord. Mon bateau, on prend 10 personnes. Le souci, c'est que si je vais sur un bateau où ils sont 30 ou 40, il y a risque de chavirage. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reste aux environs, on contacte, comment dire, les autorités, parce que c'est eux qui déclenchent les secours. Par contre, si c'est une panne moteur ou autre, en fait, on ne donne pas de carburant parce que ça pourrait être assimilé comme une aide à l'immigration. Donc, je prépare le bateau et au moment de sortir le bateau, j'étais avec les journalistes que je connais très bien et je leur dis, écoutez, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, on va préparer des gilets. Donc, je sors des gilets de sauvetage en plus. Et voilà, nouveau la partie, donc on sort du port, on va à l'est, parce qu'on avait eu 2-3 petites infos comme quoi ça partait beaucoup de l'est de Calais. On tombe justement sur un bateau qui venait de partir de la plage, donc avec une vingtaine de migrants à peu près. Je dis tiens, on va longer la côte, et on tombe sur un bateau avec 3 migrants, et on voit quelqu'un faire un mouvement, mais toujours le même, et on dit tiens, c'est bizarre. Et on voit un des migrants en train de gonfler des chambres à air de voiture. Et je comprends tout de suite que le bateau est prêt à faire monter des migrants dedans. Et je les voyais tout le temps avec leur téléphone dans les mains. Et en fait, c'est que c'était, on appelle ça un bateau taxi. En fait, c'est un bateau avec des passeurs, donc ils étaient 3, il me semble. Ils restent au large, ils préparent le bateau, et par l'application TikTok, ils vendent des places pour traverser la Manche aux migrants. Donc, ils envoient un nombre de places en disant, voilà, nous serons à peu près à tel endroit, vous payez sur tel compte, et quand le virement est fait, nous recevons et nous vous donnons un point GPS avec le nombre de personnes qu'on peut embarquer, et voilà. Et arrivé à hauteur de Calais, au loin, je revois un deuxième bateau. Et en fait, je m'aperçois que c'était un deuxième bateau taxi. Et au moment où on arrive à sa hauteur, on entend crier, le jour se levait juste à ce moment-là. Et d'un seul coup, on voit au loin, en fait, à peu près une centaine de migrants partir tout courant en descendant des dunes et en sortant des chalets. Parce que sur la plage de Blériot-Plage, il y a tous des chalets. Et en fait, ils se cachent dedans. Et ou sur les côtés, ils dorment là la nuit. Et en fait, on les voit arriver tout courant, tout courant. Et en même temps, on voit sur la gauche, tous des CRS et des gendarmes arrivant tout courant après eux. Sauf que au moment où vous avez les pieds dans l'eau, on passe sur la loi maritime. Donc vous pouvez pas être ni contrôlé ni arrêté parce que c'est la loi sur l'eau. Donc en fait les migrants se sont mis tout de suite les pieds dans l'eau. De cette là les CRS, ils ont pas pu intervenir et les sortir, ils sont restés derrière eux. Et il y a le premier bateau taxi qui s'est vraiment mis dans un mètre d'eau et les migrants sont montés dedans. Sauf que ils avaient un peu trop chargé le bateau. Et j'ai fait un premier appel radio au niveau de la capitainerie en leur disant, écoutez, je suis à côté d'un taxi boat, il est vraiment sur charge, ils sont fort énervés, je le sens pas trop. Et il dit, écoutez, on va envoyer quelqu'un. Donc il y a effectivement le bateau de gendarmerie, une sorte de gros Zodiac qui est arrivé. Ils se sont mis à côté du premier taxi boat et ils les ont suivis. Sauf que le deuxième taxi-bot est arrivé à la côte et je les voyais toujours avec leur téléphone. Je dis, tiens, c'est bizarre, hein. Ils vont prendre des gens à bord du bateau, ils s'occupent plus de son téléphone que des gens. Et en fait, ils étaient en train de contrôler si tout le monde avait bien payé l'embarquement. Donc, ils commencent à embarquer les gens à bord du bateau. Mais on sentait une situation électrique. On voit que ça criait beaucoup, ça s'énervait, ça... Il y avait quelque chose. Donc, je fais un deuxième appel radio en disant, écoutez, ça se passe très mal de notre côté, où les gens sont énervés, ça se bouscule, il y a quelque chose. Donc, on nous dit, écoutez, on va renvoyer un deuxième bateau pour faire la sécurité. Et donc, le bateau se remplit, mais ils mettent vraiment beaucoup de monde à bord. Donc, je pense entre 30 et 40 personnes. Et je vois plusieurs personnes commencer à limite se battre à bord. Donc le bateau démarre, il commence à s'écarter du bord, donc je sais pas, on avait fait, on était peut-être à 400 mètres du bord ou 500 mètres du bord. Il y avait une mer assez calme quand même, pas trop de vent, l'eau très froide, donc on devait être à 9 degrés je pense. Et donc on se met derrière eux, on les suit, on décide de les suivre parce que je sentais quelque chose, il y avait des mouvements de ferry, donc quand il y a des ferries qui passent, ça fait des vagues. Et à un moment donné, on entend crier et puis d'un seul coup on entend un bruit. Et en fait, je vois quelqu'un tomber à l'eau. Ils étaient en train de pousser les migrants. Donc, ils ont jeté 3 migrants à l'eau. Et a priori, parce qu'ils n'avaient pas payé leur place. À l'endroit où on était, il y a entre 12 et 15 mètres d'eau. Et en fait, les 3 migrants essayent de nager. Sauf que pas de jet sauvetage. En plus, ils ne savaient pas nager. Donc, il y en avait 2 qui ont réussi à s'accrocher à quelque chose qui flottait. Comme ils pouvaient. Le troisième, je l'ai vu qu'il arrivait à pas trop mal se débrouiller en nageant. Mais le problème, c'est que ça faisait plusieurs minutes, peut-être un quart d'heure ou 20 minutes, qu'il était déjà dans l'eau pour attendre le taxi-bot. Le temps qu'on arrive à leur hauteur, le temps que j'arrive à bien me positionner pour dire de les prendre, ils étaient complètement en hypothermie. Et là, ils étaient vraiment en train de se noyer. Donc le premier que j'attrape, j'arrive à le porter par la... J'ai une petite échelle à l'arrière, donc j'ai ouvert la porte. Et j'ai réussi à le hisser comme je pouvais. Et en fait, il s'est allongé dans le bateau. Le deuxième était, mais moins, mais toujours en hypothermie, quand même bien avancé. Et le troisième, il était à peut-être 200 ou 300 mètres d'eux, en train d'essayer d'entrer à la nage. Et en fait, il s'est passé peut-être 7-8 minutes entre quand j'ai repêché les deux personnes et la troisième personne. Et quand je suis arrivé à la troisième personne, en fait, lui, il était en train de se noyer parce qu'il était en hypothermie, il n'arrivait plus à bouger ses bras, ses jambes. Et donc je fais un appel radio en disant voilà, comme quoi j'ai 3 migrants récupérés, ainsi de suite et tout. Ils me disent de rentrer tout de suite, donc je suis rentré le plus vite que je pouvais. Le temps que je rentre au port, en fait, juste le bateau de secours allait seulement sortir du port. Donc il s'est passé au moins 20-25 minutes entre le bateau de secours et moi. Et il n'y avait aucun bateau autour de nous. Donc si on n'avait pas intervenu, ils auraient été noyés. Et le migrant qui était en hypothermie avancée, en fait, on est resté au port encore au moins pendant une demi-heure, une heure avec les pompiers. Ils l'ont enveloppé et ainsi de suite. Et il a vraiment eu du mal à revenir à lui. Et peut-être, je sais pas, une heure et demie ou deux heures après les faits, parce que ça durait quand même un bon moment, quand on est réchauffé. Et à un moment donné, ben on voit un groupe de migrants qui revenait de la plage. Ils les ont vus, ils ont fait signe, ils se sont arrêtés. Et puis eux, ça allait un peu mieux. Ils ont eu des vêtements secs par une association. Il y avait la police, tout ça. Pas pour contrôler leur identité, mais pour voir si tout allait bien. Et puis, ben, ils nous ont dit au revoir. Et puis, ils sont tous les trois repartis avec leurs amis qui étaient sur la plage et qui n'avaient pas réussi à monter dans un bateau. Et ils ont dit, ben, demain, nous essaierons de retraverser la Manche. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu à mon niveau. Nous, on est quand même dans un pays où on est quand même à l'abri de beaucoup de choses. Mais je pense que je ferai la même chose qu'eux. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Moi et mon collègue, on le sait, on en a parlé des dizaines de fois. Malheureusement, il y a trop de bateaux qui traversent et vraiment en très grande surcharge. Donc... on est sûr qu'il y aura malheureusement un autre accident. Alors nous, on se prépare, mais on n'est jamais vraiment prêt quand ça arrive. Moi, ce jour-là, j'étais prêt sans l'être. Moi, ça me fait peur, oui et non. Bon, ça, on va pas dire que ça nous fait rien, c'est pas vrai. Mais je m'y attends tellement que je serais pas étonné. Ça fera toujours quelque chose, c'est sûr.
J'enseigne la philosophie à Valenciennes. J'ai fait des études littéraires et je suis très attachée à l'idée de service public. Donc la voie de l'enseignement s'est imposée. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire et c'est toujours ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je commence à enseigner dès 2006, un peu partout, entre Bordeaux et le Nord. Et j'ai été amenée à faire un certain nombre de remplacements un peu partout dans l'académie. Et puis notamment, pendant 7 ans, j'ai enseigné à Saint-Omer. Donc je prenais la ligne de train du TER Lille-Calais. Et c'est vrai qu'à partir de 2014, de plus en plus, à bord des TER, je voyais cette présence des exilés que je reconnaissais à leurs chaussures. C'était les bottes crottées, les bottes pleines de boue. Et au gré de ces trajets, je me suis mise à entrer en contact avec eux. Voilà, un regard, un sourire, et puis ça déclenche la conversation. Et c'est des personnes qui avaient beaucoup de choses à raconter. Et en 2021, j'enseigne à des étudiants d'Hippocagne. On démarre le cours de philosophie politique. Et il y a une interrogation de leur part, mais comme très souvent, sur les questions du statut des migrants par rapport aux droits, etc. Et je leur propose, s'ils en ont envie, de faire un travail spécifique sur cette question. Et donc, on construit un petit peu ensemble, en bricolant, un travail sur la question de l'exil. Et des collègues de l'équipe sont très intéressés par ce qui est en train de se développer. On fait une exposition photo sur la frontière, par exemple. Donc, on élabore un vrai projet pédagogique sur le thème exil et frontières. Et on met 2 mois à construire ce projet. On le démarre en septembre 2022. Moi, je commence à travailler sur la question de la citoyenneté à partir de Hobbes et de Montesquieu. Et puis, on programme à la fois une collecte pour l'auberge des migrants. Donc là, les étudiants sont complètement libres de participer et de s'investir à la manière dont ils le souhaitent dans ce projet. On prévoit d'aller ramener les dons collectés à l'auberge des migrants et de faire très modestement une petite ethnographie à la frontière, notamment en faisant de l'observation participante dans le hangar de l'auberge des migrants qui compte une petite dizaine d'associations internationales, en fait. Donc ils ont un carnet de notes. Et ensuite, on prévoit d'aller sur le lieu de l'ancienne jungle, qui est une zone complètement vide, pour photographier les éléments de sécurisation de la frontière. Donc on est vraiment sur un travail d'initiation à la recherche de terrain, de documentation des faits. Et la visite est programmée pour le vendredi 2 décembre. Et donc, quelques jours avant, je leur envoie un mail pour leur rappeler le point de rendez-vous, le déroulé de la journée, et leur rappeler de mettre des chaussures imperméables, de bien se couvrir parce qu'il va faire très froid, que le hangar n'est pas chauffé, etc. Et évidemment, je ne sais pas quelles sont les allégeances politiques de mes étudiants, puisque nous ne parlons pas de ça en cours. Et donc, j'ignore à ce moment-là que une partie de mes étudiants est affiliée à des partis comme le Rassemblement National et Reconquête. Et donc, ces étudiants, ils vont faire remonter ce mail aux 10 partis. Donc, ce mail, il date du 26 novembre. Le 27 novembre, Éric Zemmour est en visite dans le Douaisis et le Valenciennois. Et l'une de mes collègues, qui est déléguée du parti Reconquête, va utiliser ce mail pour en sortir un communiqué de presse qui m'accuse en quelque sorte de propagande, d'idéologie. Communiqué de presse Valenciennes le 28 novembre 2022. Au lycée Watteau, une professeure impose son idéologie avec une sortie scolaire auprès des migrants de Calais. Ce déplacement est à l'initiative d'une militante pro-immigration, professeure de philosophie de la classe. Le programme de cette sortie est « Rencontre des bénévoles de l'auberge des migrants, atelier de bénévolat, ethnographie de la frontière ». Il est demandé aux élèves de récupérer, trier et laver des vêtements pour les apporter aux migrants. L'enseignante, cofondatrice du collectif Migration 59 et l'auteur d'ouvrages pro-immigration, on peut s'interroger sur la pertinence de ce déplacement dans un cadre scolaire. Sous couvert d'un déplacement pédagogique, le professeur ne confond-elle pas son combat idéologique sur l'immigration et l'intérêt des étudiants ? L'école doit rester un sanctuaire protégé de toute influence politique ou idéologique. Elle doit être le lieu où nos enfants apprennent l'exigence et acquièrent des savoirs. Et le communiqué de presse est signé Simon Flao, délégué départemental du Nord donc pour Reconquête, et Séverine Dumini, qui est donc ma collègue, déléguée de la 21e circonscription du Nord. Au départ, ça m'a fait sourire. Je me suis dit... Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une ethnographie ? Comme si ethnographie était un gros mot. Je me suis dit, mais quel manque de sérieux. Vraiment, bon, on sait comment sont ces personnes, mais on voit bien que cet anti-intellectualisme profond se manifeste d'une manière absolument grotesque. Donc bien sûr, je souris et je me dis, mais quelle bêtise crasse ! Et je n'imagine pas qu'une telle bêtise puisse aller au-delà. Et puis ensuite, tout s'emballe très très vite en fait, puisque ces informations émanant de Reconquête, elles se retrouvent très vite sur les sites avec mon nom, mon prénom, mon adresse professionnelle et ma photographie. Et là, je reçois des dizaines et des centaines de messages de mort, des messages réclamant que je sois guillotinée, dépecée vivante, des injures sexistes et racistes. Et là, la farce tourne au cauchemar, en fait. J'appelle mon syndicat, j'appelle l'inspection. Très, très vite, mais dans les heures qui suivent, tout le monde me soutient. Le rectorat porte plainte. Et je suis extrêmement bien protégée et soutenue. Mes collègues chercheurs se mobilisent pour me soutenir. Ça va donner lieu à la publication d'une tribune dans Le Monde. De grandes associations comme Emmaüs, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement vont immédiatement publier des communiqués de presse, Amnesty International, parce que eux aussi, dans leur action de défense de l'état de droit, se sentent mis en péril à travers ce qui m'arrive. Donc j'appelle ça un front républicain, un front de défense de l'état de droit, ce front démocrate qui se met en place contre ces groupes fascistes. Mais je prends conscience quand même des méthodes de ces partis et je vois ce qui se passe ailleurs. Je vois Calac, je vois ce qui s'est passé dans un établissement en Vendée, je vois ce qui s'est passé pour un collègue de lettres en Normandie. Je vois qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une attaque de la part de militants de Reconquête ou de l'ultra-droite, avec exactement les mêmes méthodes, c'est-à-dire l'intimidation et la violence. J'ai été obligée de m'arrêter un petit peu, pas tout de suite, un petit peu après, parce qu'il y a eu un épuisement très très fort. C'est dur. Et heureusement que je suis soutenue, donc j'ai bénéficié d'une vigilance policière, c'est toujours le cas d'ailleurs, notamment lors de mes déplacements, et ça impacte beaucoup la sphère privée et familiale, c'est pas facile, étant donné la médiatisation sur CNews, etc., de l'affaire, et c'est très angoissant et blessant pour la famille, donc le moral en prend un coup, il faut quand même être clair. Et puis ensuite, j'ai porté plainte. Maintenant, le temps de l'enquête et le temps de la justice est un temps très long. Donc il va falloir plusieurs années, je pense, pour arriver au bout de la procédure. Bien sûr, j'ai peur, j'ai toujours peur. Maintenant, Je suis plus que jamais consciente de l'importance fondamentale de la liberté d'enseignement et de la liberté académique par notre simple métier, par notre simple production de connaissances en sciences sociales. On insupporte des personnes qui ont tout intérêt à faire en sorte que les connaissances et les sciences n'existent pas. Et là, je pense que plus que jamais, on est motivé par notre devoir de lutter pour la vérité, de lutter pour la connaissance, comme éclaireur des consciences et, comme l'a peut-être dit l'extrême droite, corrupteur de la jeunesse, au bon sens du terme, en éveillant la conscience et l'esprit critique. Ça, je pense que c'est fondamental. Former des citoyens, c'est très important.
C'était Calais toujours, un reportage de Claudia Prolongeau réalisé par Alexandra Candy-Longuet. Merci à Sophie Gigot, Olivier Folk, Loïc Fontaine et Pierre-Louis Caron. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris. Et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello.
Peut-être un des plus terribles dossiers d'infanticide jamais connus en France.
France Culture lance une nouvelle collection de podcasts originaux « Mécanique de la justice ». Chaque saison fait le récit d'un procès qui a marqué la carrière d'un de ses avocats. Première saison de cette nouvelle collection, l'affaire Dominique Cotteret.
Je crois que le jury populaire ne peut pas juger, en tout cas, ce n'est pas le sens du procès.
« Mécanique de la justice », saison 1, le procès Dominique Cotteret. Un podcast de Franck Berton, réalisé par Éric Lancien, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.